Vous êtes bien sûr BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est l'heure de Cop Nord. Bonsoir à toutes et à tous, la seule émission qui fait parler en direct les supporters de Lille, de Lens et les tout, le tout en même temps. Et c'est pas franchement facile parce qu'ils sont pas toujours disciplinés. Au sommaire, ce soir, on va parler de Lens qui rime enfin de nouveau avec confiance. Openda a retrouvé le chemin défilé et a passé sa frustration sur des Clermontois avec le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Autre triplé ce week-end, celui de Jonathan David qui rentre aussi dans l'histoire de son club. Et le LOSC qui a gâché la fête et son avance face à des Lyonnais qui ont accroché le nul 3-3 vendredi à la Decathlon Arena. Enfin, ce jeudi, Didier Deschamps va dévoiler la liste des bleus qui seront convoqués lors de la prochaine trêve internationale. Brice Samba fera-t-il partie de ces 23 chanceux? Eh bien, la réponse, ce sera jeudi avec Didier Deschamps. Mais d'abord, ce soir, on va voir ce qu'en pensent nos supporters en plateau, à l'image par exemple d'Alexandre Vianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Supporter de Racing Club de Lens. Bonsoir Guillaume Bataillé, journaliste local pour Europe 2.
Bonsoir.
Bonsoir Patrice Clairaut, secrétaire des Dogs d'Honneur.
Bonsoir.
Et on accueille ce soir un petit nouveau. Bienvenue, Victor Girard.
Merci, bonsoir.
Tu es supporter du LOSC. Tu nous as donc contacté via les réseaux sociaux et donc te voilà sur le plateau. On débriefera ça peut-être à la fin de l'émission. Mais d'abord, donc voilà, vous aussi, si vous voulez participer, on vous le répète chaque semaine, un petit message sur Twitter, par exemple, avec le hashtag COPNOR. On attend vos messages aussi pour, par exemple, débriefer cette émission en direct. Et on commence donc ce soir avec cette victoire, cette large victoire même de Lens à Clermont. Résumé de la rencontre avec Clément Lanuc.
Un succès acquis à vitesse grand V. 4 minutes 30, c'est le temps record qu'il a fallu à Loïs Openda pour tromper trois fois la défense de Clermont. L'attaquant belge de 23 ans marque l'histoire de la Ligue 1 en première mi-temps, devenant le joueur le plus rapide à inscrire un triplé devant l'ancien Lillois Matt Moussilou. Ajouté à sa passe décisive pour Alexis Claude Maurice, il permet surtout au RC Lens de s'imposer 4-0 et renouer avec le succès après deux matchs nuls.
Et si on regarde donc le score, on voit une large victoire lensoise. En revanche, si on regarde les statistiques de cette rencontre, on voit une possession, distribution et même des frappes plutôt équilibrées des deux côtés. La clé du match, donc, c'est surtout la réussite des attaquants lensois et donc notamment de Loïs Openda qui a tiré 4 fois pour 3 buts. Ça lui est pas arrivé souvent cette saison. On commence donc avec, vous en avez l'habitude, les top et flop. Forcément, je me tourne vers toi, Alexandre. Qui a été pour toi le meilleur lensois?
Openda, forcément, puisqu'il met 3 buts, une passe décisive. J'ai beaucoup aimé Thomasson. On ne l'attendait pas forcément dans ce rôle de récupération, un peu à l'image d'habitude d'Abdoul Samed et Fofana, qui ont plus un rôle de pieuvre au milieu de terrain. Ils vont chercher un peu tous les ballons. Et j'ai beaucoup aimé Thomasson, notamment sur le deuxième, sa façon de faire le pressing et de poursuivre l'action pour mettre la passe D, la galette pour Openda.
Alors Openda, donc, est-ce qu'il fait l'unanimité ce soir sur ce plateau avec 3 buts, une passe D?
C'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Après, ce que moi j'avais beaucoup aimé, c'est la qualité technique. Par exemple, sur le premier but, la passe de Fulgini, elle est incroyable. Ouais. Elle paraît un petit peu anodine, mais elle est au millimètre. Et puis Thomasson, comme tu l'as dit, il se retourne, il décale Openda. Enfin, je mettrais ça aussi en avant.
Openda fait l'unanimité.
Openda, oui, parce qu'il y a le triplé, donc on ne peut pas l'enlever. Mais moi, je rejoins complètement, c'est Thomasson. Mmh. Parce qu'il est arrivé en janvier, si je ne me trompe pas.
Exactement, il est dans le mercato. Fulgini, très
ouais.
Bon mercato.
C'est un très très bon mercato et il prend sa place. Il est en train de s'installer là sur le côté. Et moi j'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match. Il fait une super passe sur le but et très influençant.
On parlait justement du triplé d'Openda, le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, puisqu'il bat le record de Matt Moussilou.
Ouais. Le Lillois.
4 secondes évidemment.
Un trophée pour Lens.
Allez, bam.
Ça commence bien. Donc, on peut l'écouter, par exemple, Loïs Openda, justement, qui, comme il l'a dit, a effacé un Lillois des tablettes de l'histoire du football.
C'était un soulagement pour moi parce que, comme je vous dis, je voulais marquer depuis tous ces matchs sans marquer. Et aujourd'hui, remarquer avec 3 buts, je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de confiance et surtout beaucoup de délivrance. Je pense que c'est effacer un Lillois des tablettes pour mettre un lanceur. Je pense que c'est quelque chose de pas mal. Je suis très content. Mais bon. Blague à part, je suis très content d'avoir pu marquer le triplé le plus rapide de Ligue 1.
Ça veut dire que ça y est, la confiance elle est de retour, Alexandre?
C'est ce qu'on disait un petit peu à la dernière émission. Dans le contenu de nos matchs dernièrement, c'était quand même cohérent. C'est juste qu'on n'avait pas l'efficacité sur la fin des actions. Là, pour le coup, on a vu des actions qu'on a vues pendant les 7 dernières journées. Le gardien clermontois nous aide pas mal parce qu'il n'est pas très efficace, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des attaquants qui marquent et puis d'être efficace parce qu'effectivement, on a 6 tirs cadrés, je crois, pour 4 buts. Donc oui, j'espère que la confiance est de retour.
Après, le bémol, c'est quand même la faiblesse de Clermont.
C'est très faible. Pas forcément un bémol pour le coup, mais c'est vrai que c'est un coup de main supplémentaire.
C'est ça.
Mais s'il fallait maintenant revenir sur les flops, est-ce qu'il y a pour toi un joueur lensois qui a été moins au niveau de ses partenaires?
J'ai été déçu par Frankowski et...
Sotoka.
Non, Sotoka, je l'ai trouvé bon justement parce qu'on a changé de système et il a permis d'avoir, de permettre à Openda de prendre beaucoup la profondeur, mais je trouvais que nos latéraux n'ont pas été aussi... impactant que d'habitude et on a joué plus,
c'était
plus
Aïdara, au centre du terrain.
Ouais, Aïdara n'a pas été extraordinaire. Non, on les a moins vus que d'habitude.
Guillaume ?
Moi, j'aurais mis Sotoka parce qu'il était un peu moins remanque que d'habitude. Mais après, surtout, moi, ce que j'aime pas, c'est quand il fait une très grosse faute en deuxième période et ça aurait pu lui coûter une expulsion.
Un peu de frustration peut-être pour le
peut-être
milieu.
Parce qu'il fait pas un...
Donc Sotoka.
Sotoka, et puis ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, donc peut-être un peu de frustration de sa part, je pense.
Victor ?
Bah, c'est forcément plus compliqué de trouver des flops sur une victoire assez fleuve. Mais c'est vrai que les latéraux n'ont peut-être pas eu le rapport qu'ils ont habituellement. Je rejoins plutôt ton avis, Alexandre, par rapport aux latéraux.
Koski Aïdara, pour toi aussi, Patrice.
Ouais, les deux latéraux, mais ils sont bien couverts par... Parce qu'on parlait des tops tout à l'heure, on a Gradit aussi.
Ouais, qui a fait un
très pense que Gradit, s'il ne fait pas cette sortie
sur la ligne
à 0-0, ça peut changer beaucoup de choses. Et Danso, Gradit, ça couvre... Effectivement, les latéraux n'ont pas été très forts, mais ça couvre vraiment... Quoi. Ils changent le système, il y a ces deux-là qui tiennent la baraque depuis
justement. Jonathan Gradit, on peut l'écouter. Il a lui aussi été soulagé à la fin de cette rencontre.
Du déclic, je l'espère. Après, c'est vrai qu'on a fait un très bon match, je trouve. On a été bien dans nos intentions, on a été positifs tous ensemble aussi, parce qu'on était dans une période un peu plus compliquée, forcément, mais je trouve qu'on a été solidaires entre nous et on a été récompensés aussi. Autant on manquait un peu d'efficacité offensive ces derniers matchs, autant là, on a 100% de réussite, donc on est super heureux. C'est vrai que ça faisait un moment aussi où on prenait pas beaucoup de buts, mais on arrivait toujours à prendre un but en fin de match ou sur des erreurs évitables, et là, on arrive à être solide et c'est très, très, très bien. Il n'y a que du positif.
Et à noter donc que c'est la première victoire lensoise depuis la reprise après la Coupe du Monde. Au-delà des 5 minutes de folie, on a dit triplé très rapide. Alexandre, pour toi, t'as pas forcément vu un match finalement incroyable du Racing Club de Lens. La victoire, elle est large, mais ça s'est pas tant vu que ça sur le terrain.
Alors, si je me permets, je crois qu'on avait battu Nantes après la Coupe du Monde, à domicile.
Oui, mais à l'extérieur.
À l'extérieur, oui. Et non, je trouve que Lens est très bien rentré dans la rencontre. Et au bout de 20 minutes, c'est à ce moment-là que Gradit sauve ce but sur la ligne et ça aurait changé le cours du match. Mais Lens a attaqué le match pied au plancher. On a été bon. C'est pas notre meilleur match, mais on a été très bon dans l'impact et dans l'envie, je trouve.
On a donc ce changement de système aussi voulu par Francaise. On arrive sur un 4-3-3, là où il a l'habitude de plus avoir ses 5 défenseurs. Le fait d'avoir essayé ça au derby, le fait de l'avoir recommencé, est-ce que pour vous c'est le choix payant, notamment de Francaise cette victoire ?
Est-ce que c'est un choix ou une obligation ? Parce qu'il y a quand même Medina qui n'est pas là. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il revient prochainement ou pas. Mais je pense que le jour où Medina revient, il repasse à sa défense à 3, Medina, Danso, Gradit.
Pour toi, le retour de Medina va refaire changer les plans de...
Alors, pour moi, si Medina est titulaire, on repassera à notre système habituel, mais ça permet au moins à l'équipe de pouvoir s'adapter en cours de match et à changer de système si on a des adversaires qui... Parce que maintenant, ils se calquent pas mal sur nos latéraux. Ça permet de voir une équipe qui peut jouer de façon différente.
Et puis il y a eu aussi quelque chose d'assez marquant pour Lens ce week-end, c'est les adversaires directs qui ont tous fait au mieux nul, au pire une défaite, là, ce qui permet donc à Lens de revenir sur la troisième place. Là, c'est le vrai coup de chance, au-delà de comme tu l'as dit, de la défense clermontoise et notamment du gardien assez passif, le fait de voir tous les adversaires directs rester un petit peu immobiles.
Est-ce que la troisième place, c'est un peu la place, on va dire, bâtarde, entre guillemets, parce que tu prends le tour de préliminaire des Ligues des Champions, tu reprends très tôt dans la saison. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour Lens de terminer à la troisième place ? Je ne suis pas sûr.
La réponse, Alexandre ?
Oui, je préfère être troisième que cinquième.
De toute façon, ça donne l'Europa League obligatoire.
Oui, voilà, c'est en fait, tu es reversé. Donc, à la limite, tu prends tes matchs tu les prends comme des matchs de préparation si tu n'as pas l'effectif.
À noter aussi que la place la pire pourrait être la sixième. Mmh. Et ça, forcément, on va en parler dans quelques instants, puisque c'est celle qu'occupe actuellement le LOSC. C'est pas pour vous la pire, celle-là, cette place qui prive de toute compétition.
Depuis que les quarts de finale de Coupe de France se sont joués, qu'effectivement cette sixième place n'est plus européenne par définition. Alors, sauf si Lyon ferme, mais c'est impossible qu'il remonte aussi haut.
Donc, non, mais ouais, pour Lens, ça serait terrible parce qu'on est dans le top 5 depuis quasiment le début du championnat. Donc, ça serait une énorme désillusion.
Ça concerne plus Lille que Lens, à mon avis.
Il faut vraiment battre Angers pour passer la trêve au chaud, quoi.
Après, c'est la Conférence League.
On verra donc ça. On parlait justement de Lille. Lille qui a fait concéder le nul sur sa pelouse face à Lyon. Résumé de la rencontre avec Fanny Cousin.
Un nul et beaucoup de regrets.
Petit souci technique, on retrouvera donc Fanny Cousin dans quelques instants. Mais bref, résumé, donc une rencontre assez mouvementée, du moins passée la mi-temps. On a vu donc Jonathan David inscrire ses 3 buts, dont 2 sur pénalty, avant que les Lyonnais reviennent.
Un nul et beaucoup de regrets pour le Lost.
Dernière seconde. S'il fallait regarder les statistiques de cette rencontre, des Docks qui ont eu le ballon 55% du temps, 8 frappes dont 6 cadrés face aux Lyonnais, une réussite qu'on ne connaît pas forcément tout le temps du côté des Lillois qui ont été plutôt précis, mais ça n'a pas suffi. Qui pour vous a été le top de cette rencontre, Patrice ?
Alors, la facilité, ce serait de dire Jonathan David, mais moi je serais plutôt sur Cabella, qui avait été un peu en baisse pendant les derniers matchs, et je trouve qu'il a fait un vraiment très très bon match. Voilà. Donc moi je resterai sur Cabella sur ce match-là.
Victor ?
Je pense qu'effectivement on va citer Jonathan David, un triplé, beaucoup de sérénité aussi au niveau de ses pénaltys. Après j'ai bien aimé aussi Chevalier qui sort quand même un sacré arrêt au début de match face à l'attaquant lyonnais Barcola. Il s'interpose aussi en fin de match. Il y a aussi les bonnes 85 premières minutes de Yoro qui à 17 ans s'est quand même érigé comme un patron. Il a fait pas mal de bonnes sorties, etc.
Et donc ton top ?
Donc je pense que je vais rester sur Jonathan David.
Parce que tu nous fais une François Laroux. Ouais, qui sort un peu, toute l'équipe. Non, ok, donc Jonathan David, pour toi le meilleur Lillois. Alexandre ?
Jonathan David.
Guillaume. Je rentre dans la facilité, ouais, Jonathan David, parce qu'il rentre dans l'histoire du club. Je pense que c'est super important pour un joueur. Et puis il m'a un triplé. Bon, ça sert à pas grand chose parce qu'il gagne pas, mais
ça sert quand même à prendre un point.
Oui, bien sûr, mais je vais pas dire si c'est synonyme de défaite, mais c'est quand même un échec de parce que t'es au-dessus de Lyon.
Ton flop, alors ce serait qui
le système défensif? Je voulais mettre Alexandro,
ouais, une France aussi.
C'est la première fois. J'aurais pu mettre Angel Gomez, mais le système défensif, tu peux pas prétendre à l'Europe. En prenant deux buts dans les 10 dernières minutes. En plus, ils auraient pu en prendre un.
Mais t'as plusieurs blessés. Là, c'est une position défensive qui est complètement inédite. On peut voir, hein. Il avait choisi donc Gudmundsson à gauche, la centrale Alexandro Yoro, c'était la première, un joueur de 17 ans aussi, avec à droite Timothy Weah qui est un attaquant.
C'est bon, Gudmundsson.
Je pense qu'il fait partie de
ça. Moi, je l'aurais mis en flop.
Ouais, c'est ça. Il y a Victor notamment.
Tous les 3 buts lyonnais viennent de son côté.
Il est pas bien placé.
Il est en retard. Après, on sait, il était ailier quand il était jeune, c'est plutôt un piston de base. Mais c'est vrai que dans son dos, défensivement, il n'a pas été à la hauteur.
Mais je trouve qu'il a beaucoup apporté offensivement, justement. Oui, mais défensivement, on est d'accord. Ouais.
C'est pas un défenseur.
Ça reste aussi une première mi-temps très molle qui avait été offerte par les joueurs du LOSC, un peu comme contre le derby, ils avaient été plutôt bien piégés. Est-ce que le passage au vestiaire, là aussi, pour toi, Patrice, ça fait du bien ?
Ah, c'est assez compliqué parce que ce que dit Guillaume, il dit ouais, effectivement c'est un échec ou pas. On commence à être habitué cette saison il y a beaucoup de frustration quand même. On ne va pas compter le nombre de points.
Je t'ai pas demandé ton flop d'ailleurs, il me semble.
Mon flop ?
Ouais. Vas-y, dis-le.
André Gomez. Alors d'habitude, je le mets assez souvent en top quand je viens. Mais je trouve que dans le derby, sur la première mi-temps, il avait été inexistant et Fofana l'avait mangé, entre guillemets. Deuxième mi-temps, bien mieux. Mais là, on voit. Et je pense que physiquement, comme il a quand même. Il ne faut pas oublier qu'il a quasiment pas joué sur les 2 dernières saisons. Il doit être un peu dans le dur là, en ce moment. Je pense qu'il reste un match. Après, il va avoir la trêve internationale, il va revenir. Mais on sent qu'il est un peu plus dans la difficulté. Et c'est quand même celui qui organise et qui fait le jeu au milieu de terrain aujourd'hui.
Mais c'est pour toi, il s'est passé quoi alors dans ce vestiaire à la mi-temps ?
Dans le vestiaire à la mi-temps, c'est... Je pense qu'ils étaient sur... On les mange un peu comme d'habitude, parce que ça fait 3 fois qu'on les joue cette année. Ça fait 3 fois qu'on les bat pas, ça fait 3 fois qu'on leur marche dessus à Lyon, faut quand même pas se le cacher. Et se dire, bah écoutez, on est quand même plus fort qu'eux. On a cette chance-là aussi, c'est qu'il y a le but de Jonathan David qui arrive quasiment dans l'entrée de deuxième mi-temps, qui donne le peps. Et puis après, bon, il y a la Cazette. Et on parlait de la jeunesse des Lillois, notamment Yoro. Je pense que la Cazette a une influence. C'est le genre de joueur.
Ils se sont vus trop beaux derrière les Lillois. Ils sont
non, et puis je pense que la Cazette, c'est un joueur qui a une influence, qui est là avec son savoir, tout ce qu'il a derrière lui, son expérience. Qui fait quand il arrive sur un petit jeune comme ça, je pense que ça parle, ça joue. Ça, on l'avait vu en Coupe de France, il nous avait fait la même. Et je pense que ça a beaucoup. beaucoup joué son entrée par rapport à Cherki qu'on n'a pas vu du tout du match. Quoi.
Et l'avis donc de Patrice, partagé par Jonathan David, vraiment déçu d'avoir perdu les points à la sortie de cette rencontre. On l'écoute.
On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles et après les 10 dernières minutes, on perd le match. Alors c'est très décevant. On perd les 3 points et on est un peu plus bas dans le classement. Franchement, c'est dur à expliquer. Même moi, j'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est pas la première fois, mais on en parle à l'entraînement. Et après, franchement, je sais pas quoi dire.
Pour vous, est-ce la faute de Paulo Fonseca quand on pense au match donc de Lyon? On va parler aussi, par exemple, de Paris. Est-ce que le fait de ne pas vouloir bétonner fait que son coaching ou non-coaching, Patrice, qui se concentre, je pense que tu as quelque chose à nous dire là-dessus pour toi, c'est Fonseca plus que les joueurs qui sont responsables, par exemple, de ces points perdus?
Non, je pense qu'on n'a pas l'équipe pour. On a une équipe qui est construite pour jouer. On n'a pas une équipe qui est faite pour justement défendre et bétonner. On le voit. De toute façon, dès qu'on joue un peu en retrait, on concède des occasions assez facilement. Maintenant, on peut lui reprocher son coaching, mais je ne sais même pas si c'est intéressant de se dire qu'on aurait pu faire entrer Baléba au milieu de terrain pour le renforcer à 3-1. C'est ce qui s'est passé aussi à Paris. Mais bon, on a l'habitude. C'est sa première saison. Je pense que son effectif, il va le reconstruire du moins progressivement pour la saison prochaine.
Mais et puis juste voilà, un mot aussi donc de Jonathan David, on en a parlé il y a quelques instants. 53 buts, donc avec les 3 marqués vendredi soir, il a battu le record d'Eden Hazard, le Belge qui avait un mot plutôt sympa pour le Canadien. On l'écoute.
Bonjour à tous, les supporters du LOSC. Voilà, c'est Eden. Je veux juste vous faire un petit coucou. J'embrasse tout le monde. Et je voulais juste dire, faire un petit mot à Joe. Félicitations pour tes buts, mon ami. Tu m'as battu. Enfin, tu me l'avais juste dit quand on s'est rencontré contre le Canada, là, Belgique-Canada. Tu m'as dit que t'allais battre mon record, donc voilà. Super content pour toi. Bisous à tous. On est ensemble. Ciao, ciao.
Et à noter donc que Jonathan David est le meilleur buteur en 2023 sur les 5 grands championnats avec 10 buts. Et il est actuel comme meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 unités. On va parler de la trêve internationale dans quelques instants, le temps d'une courte page de pub. Et on se retrouve après pour parler notamment de Brice Samba et pourquoi pas de Benjamin André avec Didier Deschamps. A tout de suite. On est de retour sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral Cop Nord. Donc on va parler de jeudi, Didier Deschamps qui va appeler 23 bleus. C'est la première liste post-Coupe du Monde. On devrait avoir quelques surprises hein, puisque Hugo Lloris, Raphaël Varane ont tous les deux annoncé leur départ de l'équipe de France. Est-ce que ces surprises, ces places laissées libres peuvent profiter à certains joueurs de Lens ou de Lille? Évidemment, quand on pose cette question, on parle beaucoup de Brice Samba. Est-ce que pour vous, la convocation de Brice Samba à Clairefontaine est méritée et surtout risque d'arriver? Forcément, je me tourne vers toi, Alexandre.
Bah, pour moi, elle est amplement méritée. Et je pense que ça va arriver, ouais. J'espère.
Ça paraît évident, puisque il fait une saison incroyable et doit être appelé en équipe de France.
Ouais, meilleur recrue, même.
Meilleur recrue de France, clairement, sans hésiter, ouais.
Cette saison, Victor, Patrice.
Bon, forcément, c'est un top gardien. Il nous a écœuré la semaine dernière avec son arrêt sur Zegrova. Donc, c'est vraiment un bon gardien. Et je pense que c'est même l'un des meilleurs de Ligue 1. Ce n'est peut-être le meilleur, je ne sais pas, sur le championnat actuel. Quoi. Donc non, c'est plutôt logique, forcément, pour Lens.
Alors, vous voyez qui, Patrice, par exemple? Tu vois qui, les 3 gardiens convoqués par Didier Deschamps?
Alors,
Mike Maignan, forcément.
Samba, je pense qu'il y sera, effectivement, et que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, je rejoins. Par contre, il a un monstre devant lui qui s'appelle Maignan. Mais vraiment, pour l'avoir.
Oui, c'est vrai.
Alors, et moi, j'ai vu Maignan démarrer à Lille et on se demandait au départ avec son jeu au pied, etc. On s'est dit, c'est pas possible, il est pas bon. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui, je pense qu'il a un vrai monstre. Et
il est très bon depuis sa blessure. Hein. Puis
il a été très bon à Tottenham en Ligue des Champions cette semaine. Donc je pense qu'il y aura Maignan, il y aura Samba. Après, apparemment, on parle d'Areola en 3, j'ai toujours pas compris. Parce qu'il y a quand même.
Pour moi, il y a la
fonction. Voilà. J'ai vraiment compris finalement.
Mais c'est une période aussi où il faut effectivement mettre du sang neuf et faire rentrer les joueurs pour qu'ils apprennent. Et il reste un an et demi avant la prochaine échéance.
De toute façon, on mettrait qui à la place?
Il y en a plein, ça
il y
peut
y
être
un sur Ilan Meunier,
par exemple.
Ouais.
Alors je crois que c'est quasiment le poste de gardien en France, je crois que c'est le poste où c'est le mieux garni, même en défense centrale, et j'en ai pas mal. Sur les postes de gardien, on a vraiment des très très bons joueurs.
Lucas Chevalier est très très bon, il fait une excellente saison.
Est-ce qu'il a le niveau international?
Je sais pas, mais en tout cas, il pourrait être testé, enfin il est encore très jeune, mais il pourrait être testé en équipe de France s'il y a beaucoup de blessés chez les gardiens.
Pour moi, très bien en espoir. Et laissons le temps au temps.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs un joueur lillois qui, selon vous, mériterait une convocation? Je disais plus ou moins en rigolant, même s'il a les meilleures statistiques, souvent Benjamin André, au milieu de terrain, peut-être un peu trop vieux pour être convoqué par des gens qui a cette tête.
Pour moi, il ne le sera pas. Et je l'avais déjà dit une fois, mais je le répète, je pense qu'il a une carrière à la Florent Balmont. Et il aurait dû mériter au moins une sélection pour l'ensemble de son œuvre. Ouais. Ah oui, parce que c'est certainement un des meilleurs 6 du championnat également aujourd'hui.
Bah, il est toujours en tête de tous les classements des duels gagnés, tous les ans. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on se dit que bah, c'est fini, qu'il n'y sera plus. Mais c'est vrai que quand on voyait la liste pour la Coupe du Monde, alors forcément la Coupe du Monde, il faut avoir un petit bagage, etc., que André n'a pas. Mais quand on voyait un Vertu, des joueurs comme ça, on se dit que André aurait complètement sa place. Donc c'est un petit regret, je pense, dans sa carrière, parce qu'il a gagné des titres. C'est un joueur inamovible en Ligue 1. Et de voir qu'il n'est pas convoqué en équipe de France, je pense que pour tous les supporters lillois, c'est dommage, quoi.
Voilà donc pour la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée ce jeudi. Puis on voulait terminer cette émission avec un petit mot pour Raphaël Marquant, qu'on croit souvent sur ce plateau, et aussi pour le Petit Lillois. C'est un média qui a longtemps été tenu par des bénévoles, qui a annoncé ce week-end tirer sa révérence après 11 ans d'aventure. C'est une référence pour beaucoup de supporters, d'où les hommages rendus aussi par les joueurs. C'est à signaler, ce qui souligne la qualité du travail, que ce soit sur le suivi de l'équipe première du LOSC, mais évidemment aussi les équipes jeunes, les équipes féminines. Bref, un travail monstre qui touche à sa fin. Et on voulait les saluer juste avant, et bien évidemment, de regarder le classement comme à la fin de chaque Cop Nord. Lens qui remonte donc sur le podium avec cette victoire, 54 points, 2 unités de Marseille, 3 points devant Monaco et 8 points devant le LOSC, toujours 6e. Des Dogs qui n'en ont qu'un point de retard sur les places européennes. Et puis un mot aussi du programme ce week-end, Lille qui se déplace à Toulouse, ce sera samedi à 17h avant que Lens n'accueille le SCO d'Angers à 21h. Et on passe maintenant au résumé d'un week-end de sport avec Nicolas Flo.
5e match consécutif sans victoire pour Valenciennes. Mené d'entrée par Bastia, VA avait pourtant réagi grâce à un doublé d'Adrian Gurbic. L'égalisation de Magri à 20 minutes du terme a douché les espoirs nordistes. Avec ce nul de partout, Valenciennes est 12e de Ligue 2. Gravelines Dunkerque retombe dans ses travers sur le parquet du Mans. Dans la Sarthe, le BCM a concédé une 11e défaite en 12 matchs à l'extérieur cette saison. Déjà mené de 14 points à la pause, le club nordiste a encaissé un cinglant 31-12 dans le troisième quart-temps. Les 18 points de Johnson et le réveil de la BCM dans les dernières minutes n'ont pas suffi à renverser le match. Gravelines Dunkerque s'incline sèchement 108-86. L'autre club nordiste, le Portel, n'a lui pas joué ce week-end. La réception de Pau a été reportée en raison de la grève des transports. Le match aura lieu demain soir. Le SBVA signe l'exploit de la journée sur le parquet du leader Bourges. Pourtant invaincu à domicile cette saison, Villeneuve-d'Ascq a décroché une victoire de prestige. Portée par Camilla Smalls et ses 18 points, les joueuses nordistes ont inscrit les 8 derniers points du match et s'imposent 82-72. Le SBVA est 3e de la Ligue féminine. Et puis en volley, Tourcoing est allé décrocher un deuxième succès de rang en championnat. Victoire nette 3-7-1 contre Saint-Nazaire. Le TLM est 4e de Liga.
Et c'est déjà la fin de ce Cop Nord. Merci messieurs. J'espère que cette première s'est bien passée. Victor, on se retrouvera très rapidement. Merci à Théo Dorangeon à la réalisation de cette émission. Merci à RMC Sport et on se retrouve lundi prochain sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.